Je redonne la parole à Claire Dunois.
Alors, le Covid. Au moment où l'épidémie a touché l'Europe, en mars 2020, tous les grands principes ont été balancés par-dessus bord en quelques jours. Les frontières ont été fermées, chaque État a mené sa propre politique sanitaire et tout ce qu'a fait la Commission européenne a été de lever les restrictions aux dépenses publiques des États et de suspendre les règles budgétaires communes, en d'autres termes, d'acter le fait que chaque État menait une politique indépendante. Les États européens se sont même livrés à une véritable guerre des masques pour récupérer des stocks sur le dos de leurs prétendus alliés européens. Dans un deuxième temps, les États européens ont quand même tenté de s'accorder sur certains sujets, en particulier les vaccins. Négocier auprès des firmes pharmaceutiques pour un marché de 450 millions d'habitants était plus convaincant que si chaque État européen l'avait fait de son côté. La Commission a donc organisé des achats groupés, au prix dicté par les firmes, bien sûr. Comme tout en Europe, cela a pris beaucoup de temps, car il fallait se mettre d'accord sur le type de vaccin, la répartition des doses, etc. Et cela n'empêchait pas les États de chercher à en acheter de leur côté, en acceptant eux aussi de payer le prix fort. La fin du Covid n'a pas signifié un retour à l'avant-crise dans le fonctionnement de l'Union européenne. Les sommes astronomiques déversées par tous les États pour préserver les profits malgré la perturbation des échanges et de la production ont rendu caduques les règles budgétaires communes. La dette publique de la plupart des États d'Europe est encore actuellement supérieure aux critères de Maastricht qui la fixait à 60% du produit intérieur brut. Ce critère a été présenté à la population comme absolument incontournable pendant 20 ans. Il a servi à saigner la classe ouvrière grecque au moment de la crise de la dette, à justifier les plans d'austérité imposés dans tous les pays européens. Mais il s'est évanoui lorsque l'enjeu a été non plus de faire accepter des reculs à la classe ouvrière, mais de déverser des milliards dans les caisses des patrons. Le PCF, qui pendant des années s'est poumonné contre Maastricht, peut se réjouir. Les critères de Maastricht ont été largués par les États européens eux-mêmes. Mais cela révèle à quel point montrer du doigt ces critères comme la cause des problèmes de chômage et de bas salaires était stupide. Leur abandon n'a pas rendu la politique des États moins favorable aux capitalistes et moins hostile à la classe ouvrière. Les États européens ont été moins austéritaires, mais l'argent qu'ils ont dépensé est allé dans les caisses du grand patronat, pas dans les poches des travailleurs qui se sont au contraire appauvris pendant cette période. Alors depuis quelques mois, les pays de l'Union européenne négocient ce qu'ils appellent un pacte de stabilité qui, comme pour le traité de Maastricht, fixe des déficits et un niveau de dette maximum, mais avec plus de dérogations. Il est possible qu'on nous ressorte ce type de critères pour justifier telle ou telle économie de l'État. Dénoncer les économies sur les services utiles à la population, oui, mais faire croire que c'est la faute à Bruxelles ou à l'Allemagne, ce sera, comme à l'époque des critères de Maastricht, dissimuler le fait que les budgets publics sont élaborés en fonction des intérêts capitalistes par nos propres gouvernements et pas parce qu'une force supérieure les contraindrait. La crise du Covid a eu un autre effet encore. L'Union européenne a ajouté des crédits supplémentaires à ceux des États pour faire redémarrer les circuits économiques. Et elle a organisé un plan de relance de 750 milliards d'euros. Pour le financer, la Commission européenne a emprunté sur les marchés financiers. Et ensuite, elle redistribue les fonds, pour moitié sous forme de subventions, pour moitié sous forme de prêts. Ce mécanisme prévoit des remboursements jusqu'en 2058. En fait, la façon dont cette dette sera remboursée est pour l'instant très floue, et cela ouvre le risque d'une crise de la dette, mais à l'échelle de l'Union européenne cette fois-ci. Ce surendettement des États et de l'Union européenne, lié à l'accroissement des budgets dits de soutien à l'économie, est le symptôme d'un capitalisme de plus en plus parasitaire qui pompe de plus en plus la richesse collective. L'Union européenne y contribue davantage depuis 2020. La bourgeoisie a trouvé un nouveau tuyau pour aspirer l'argent public. Mais cela ne veut pas dire que l'Union européenne s'est renforcée, bien au contraire. Et en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, les tensions s'aggravent. Cette guerre, qui dure depuis plus de 2 ans et a déjà fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés, est avant tout liée au choix américain de profiter de l'invasion russe pour mener la guerre à la Russie avec la peau du peuple ukrainien. L'Europe a dû s'aligner sur la politique américaine, et elle l'a globalement fait. Aucun pays européen ne pouvait se permettre de rompre avec les États-Unis, même ceux qui perdaient le plus à la rupture économique avec la Russie, comme l'Allemagne. Mais dans cette situation, comme tout le reste du temps, derrière l'unanimité affichée, les pays européens ont des intérêts différents et parfois contradictoires. Alors bien sûr, l'Union européenne a voté des sanctions contre la Russie. Il est interdit d'importer en Europe le pétrole russe, ainsi que le charbon, l'acier, l'or, les diamants. Il est interdit d'y exporter tout ce qui peut avoir un usage militaire, des produits chimiques et des produits de luxe. Mais ces sanctions ont été négociées pied à pied entre les pays de l'Union européenne qui n'ont pas tous les mêmes liens économiques avec la Russie. Et les importations de gaz n'ont pas été interdites en même temps que celles de pétrole. C'est que pour toute une partie de l'Europe, se passer du jour au lendemain du gaz russe était tout simplement impossible. Avant le début de la guerre, l'Allemagne importait environ la moitié de son gaz de Russie. Elle a pu trouver, à prix élevé, d'autres sources, en particulier en Norvège. Mais pour d'autres pays ayant moins de moyens, comme la Hongrie par exemple, le gaz russe reste vital. L'Autriche continue elle aussi à importer quasiment tout son gaz depuis la Russie. Pour d'autres, l'interruption des livraisons de gaz russe par gazoduc est au contraire une aubaine. L'Europe doit s'approvisionner en gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. Une partie d'ailleurs reste russe, mais transite désormais par la mer. Total Energy, par exemple, en tire de bons profits, comme il tire profit aussi du transport du gaz liquéfié américain, dont les importations ont énormément augmenté depuis la guerre. D'autres secteurs ont été exclus des sanctions, en particulier le nucléaire, sous pression de la France. Les centrales françaises dépendent de l'uranium russe, de même que celles de Slovaquie, de Hongrie et de Bulgarie. Les représentants de l'Allemagne remettent régulièrement le sujet sur le tapis, sans succès pour l'instant. Outre les sanctions, les plans dits de soutien donnent lieu à des négociations serrées. Récemment, l'adoption d'un plan de 50 milliards d'euros a nécessité plusieurs semaines de négociations, notamment avec le Hongrois Viktor Orban, qui en a profité pour mener une agitation démagogique contre le fait que les fonds européens risquaient d'aller en Ukraine plutôt qu'en Hongrie. Alors précisons que le terme « soutien » est plus que spécieux. Il s'agit pour 2/3 de prêts, et les fonds doivent servir entre autres à soutenir les investisseurs en Ukraine. En d'autres termes, à faciliter la mainmise du capital financier d'Europe de l'Ouest sur l'Ukraine. Car la guerre est l'occasion de renforcer la domination des capitaux occidentaux sur le pays, américains, mais aussi européens. Quant aux livraisons d'armes à l'Ukraine, elles sont loin d'être collectivement partagées. Si l'Allemagne aurait versé jusqu'à présent 17 milliards, la France est loin derrière avec, selon Macron, 3,5 milliards, un chiffre contesté par un institut allemand qui le ramène à 600 millions. Tout récemment, Macron a signé un accord avec Zelensky avec à la clé jusqu'à 3 milliards d'euros, toute la nuance étant dans le « jusqu'à ». La Pologne, beaucoup moins riche, aurait livré du matériel pour 3 milliards contre 340 millions pour l'Espagne. Alors là aussi, derrière les déclarations d'amitié unanime à Zelensky, chacun fait ses comptes de son côté. La guerre en Ukraine pèse aussi sur l'Union européenne parce qu'elle a eu des conséquences économiques qui n'ont pas touché tous les pays au même niveau. Alors, chacun essaie de sauver les meubles de ses capitalistes, mais avec des priorités et des moyens différents. En Allemagne, les difficultés d'approvisionnement au gaz ont posé problème à bien des industriels, notamment ceux de la chimie qui ont vu leurs coûts exploser. Le chancelier Olaf Scholz a immédiatement sorti le chéquier, déversant des dizaines de milliards d'euros pour soutenir les industriels allemands, sans demander son avis à l'Union européenne. Là encore, c'est sauf qui peut et chacun pour soi. En fait, de véritables guerres commerciales se déroulent en Europe derrière cette unanimité affichée contre la Russie. La Bulgarie, par exemple, a augmenté les frais de transit pour le gaz qui passe sur son territoire et qui alimente la Serbie et la Hongrie, prélevant ainsi une sorte de dîme sur ces deux pays qui protestent. On a surtout beaucoup entendu parler récemment des produits agricoles ukrainiens. En mai 2022, l'Union européenne a levé les droits de douane et les quotas sur les denrées agricoles ukrainiennes. Cela a fait baisser le cours des céréales dans les pays de l'Est. La Hongrie et la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie ont alors décrété un embargo sur les céréales ukrainiennes. Et encore aujourd'hui, trois de ces pays, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, bloquent les céréales ukrainiennes, au point, contrairement aux décisions européennes, au point que l'Ukraine leur intente un procès devant l'Organisation mondiale du commerce. Alors il va sans dire que les revenus de ces exportations agricoles ukrainiennes vont dans les caisses des oligarques et des capitalistes occidentaux, pas des petits paysans ukrainiens qui, eux, meurent dans les tranchées pour défendre justement les intérêts de ces capitalistes, qu'ils soient ukrainiens ou occidentaux. Un autre exemple, la suspension des droits de douane a entraîné une augmentation de l'importation de poulets ukrainiens en Europe. On en a aussi beaucoup entendu parler en France ces derniers jours. Eh bien, cela rapporte gros à un groupe alimentaire qui s'appelle MHP, qui appartient à quelqu'un qu'on appelle le roi du poulet ukrainien, Yuri Kosyuk, et qui est un oligarque. Mais à son capital, il y a d'autres volatiles plus discrets, des fonds d'investissement américains, norvégiens et britanniques, et la banque française BNP. Alors dans ce contexte, les discussions sur une éventuelle intégration de l'Ukraine à l'Union européenne restent pour l'instant au stade des déclarations d'intention. Certains capitalistes peuvent pousser en ce sens, parce que cela les aiderait à mettre la main sur l'économie ukrainienne, processus qui est déjà largement entamé et que la guerre accélère. Pour d'autres, ce serait moins avantageux, en raison peut-être de la concurrence agricole ou pour des enjeux de politique intérieure. Ils feront leurs calculs et ils négocieront comme à chaque fois, mais il ne faut surtout pas y chercher de grands principes de solidarité européenne. Comme cela a été le cas pour les pays de l'Est, ce serait surtout une façon de renforcer la mainmise du capital occidental sur l'Ukraine, mainmise enrobée dans des discours mielleux sur l'amitié du peuple ukrainien, alors même qu'il sert de chair à canon aux puissances impérialistes. La guerre en Ukraine a aussi remis sur le devant la question de la défense européenne. Il n'y a pas d'État européen, il ne peut donc pas y avoir d'armée européenne, et après 80 ans de construction européenne, l'organisation même d'une défense commune n'a rien d'une évidence. Alors après la guerre en Crimée en 2014, l'Union européenne a bien créé un fonds qui s'appelle la Facilité européenne pour la paix, bien mal nommée puisqu'elle est destinée à rembourser des dépenses de guerre aux États européens. Donc cette Facilité européenne pour la paix, la FEP, avait un budget prévu entre 2021 et 2027 de 5,6 milliards d'euros. À titre de comparaison, pour une seule année, juste pour 2021, le budget militaire de la France était de 49 milliards d'euros et celui de l'Italie, 28 milliards d'euros. En fait, les budgets militaires restent essentiellement des budgets nationaux et ce sont eux qui augmentent le plus en ce moment. Le représentant européen chargé des affaires étrangères, Josep Borrell, joint sa voix au concert de déclarations martiales et le mot la FEP a été un peu augmenté depuis la guerre en Ukraine. Mais c'est toujours pour financer des moyens nationaux puisqu'il n'y a pas d'armée européenne. Et même cette FEP est devenue une nouvelle pomme de discorde. L'Allemagne voudrait diminuer sa contribution, puisqu'elle dit qu'elle a beaucoup aidé l'Ukraine directement, tandis que la France voudrait que la FEP ne rembourse que les achats d'armes fabriquées en Europe, concrètement si possible en France bien sûr. Alors pendant la conférence de Munich sur la sécurité, c'est-à-dire sur la guerre, qui s'est tenue il y a 15 jours, tous les pays européens ont affirmé et réaffirmé qu'il fallait accélérer le réarmement. Mais cela passe, encore et toujours, par le réarmement chacun pour soi et sur fond de concurrence entre les marchands d'armes français, allemands, italiens, etc. et américains, bien sûr. Cette concurrence, en fait, elle paralyse depuis toujours l'émergence d'une industrie militaire européenne. Il a fallu 20 ans pour que les pays européens arrivent à en produire en commun un avion de transport militaire, l'A400M. Un projet d'avion militaire franco-allemand-espagnol, le SCAF, traîne depuis des années et n'est pas prêt d'être produit. En fait, la vraie force militaire multinationale en Europe, c'est l'OTAN, c'est-à-dire une alliance militaire créée en 1949 et contrôlée par les États-Unis. À sa fondation, c'était une façon pour les pays de l'Ouest européen de confier aux États-Unis le soin de leur défense face à l'URSS. Et ce n'est justement pas une armée européenne, mais une armée américaine. Et la guerre en Ukraine est en fait une occasion de renforcer la présence militaire américaine sur le continent. Il y a actuellement plus de 100 000 soldats américains positionnés en Europe et les États-Unis renforcent les infrastructures de l'OTAN en Europe de l'Est. Alors bien sûr, les États européens peuvent être poussés par les circonstances à renforcer leur coopération militaire. Mais la réalité est que pour l'instant, ils ne l'ont pas fait et ils ne le font quasiment pas. Et la raison fondamentale, c'est que quoi qu'ils proclament, la réalité est qu'il n'y a pas de politique internationale européenne unifiée. Et après tout, pourquoi l'Allemagne aiderait-elle la France à défendre son précaré en Afrique ? La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. ont chacune leur diplomatie, leurs ambassades, parce qu'elles ont chacune leurs intérêts économiques et stratégiques spécifiques. Et dans le monde, ces intérêts restent différents, voire opposés. Le chacun pour soi a été particulièrement visible ces derniers mois dans les relations avec la Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne, où s'est rendu le chancelier Olaf Scholz tout seul en novembre 2022. En mars 2023, c'est le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui est allé négocier des contrats, et puis Macron en avril, avec sa propre délégation de grands patrons. Alors Macron a quand même emmené avec lui la présidente de la Commission européenne, mais le peu de poids politique de celle-ci a été clairement illustré par le traitement que lui ont réservé les autorités chinoises, qui ne l'ont même pas invité au dîner d'État organisé en l'honneur de Macron. Alors les États européens conservent leurs ambassades et leurs forces militaires pour la même raison fondamentale qu'ils ont conservé leur budget et leur législation nationale. Cela montre leur faiblesse par rapport aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et pour toutes ces raisons, l'existence de l'Union européenne n'implique pas que tous les pays membres auront les mêmes positionnements politiques dans les conflits à venir. Elle ne supprime même pas non plus la possibilité de guerre entre États qui en sont membres aujourd'hui. En Europe de l'Est, les tensions entre la Pologne et la Hongrie s'accroissent, mais aussi aux frontières de l'Union, entre l'Ukraine et la Pologne, qui n'a pourtant cessé de s'afficher comme un soutien de l'Ukraine, mais a fermé ses frontières au moment de la crise des céréales. Et même à l'Ouest, les tensions économiques peuvent amener chacun à reprendre ses billes et à rompre avec l'alliance qu'elles ont construite ces dernières décennies et qui correspondait à une certaine période. Cela dépendra de l'évolution de la crise et cela dépendra aussi des choix de la superpuissance américaine alors que la guerre économique fait rage. Car l'écart entre les puissances européennes incapables de faire front commun et les États-Unis ne cesse de se creuser. La guerre en Ukraine, qui a obligé des entreprises européennes à quitter la Russie, parfois au prix de pertes importantes, est au contraire une bonne affaire pour les entreprises américaines, notamment de l'armement et de l'énergie. Et en plus de cela, en 2022, l'État américain a lancé une véritable offensive protectionniste sous la forme d'un plan de subventions et d'investissements de plus de 350 milliards de dollars. Ce soutien étatique massif, combiné aux profits tirés des marchés gagnés grâce à la guerre en Ukraine, a encore accru l'avance du capitalisme américain par rapport au capitalisme européen. Et en particulier l'économie allemande, dont le premier fournisseur d'énergie était la Russie et dont le premier débouché commercial est la Chine, est lourdement frappée par les conséquences des sanctions et du protectionnisme américain. Et les États-Unis renforcent aussi leur puissance autant économique que militaire en Europe de l'Est, ce qui constitue une concurrence directe pour l'Allemagne. La conséquence est que la concurrence en Europe même devient plus féroce. Alors certes, l'Europe a son propre plan de relance qu'elle présente comme une réponse au plan américain qui s'appelle le Green Deal, le pacte vert. Ce nom permet de repeindre en vert une politique tout à fait traditionnelle de subvention aux capitalistes et ça n'empêche pas les autorités européennes de sacrifier l'écologie lorsque les industriels font pression. Les normes anti-pollution des véhicules, la limitation des pesticides, etc. sont jetées par-dessus bord au fur et à mesure de l'aggravation de la crise. Mais même s'il y a ce plan de relance, les États européens réagissent moins collectivement qu'en se livrant à une véritable guerre de subventions pour que les entreprises s'installent sur leur territoire plutôt que sur celui du voisin. Tous les États ont fait leur propre plan de relance, mais tous n'ont pas les mêmes moyens, c'est peu de le dire. Rien qu'en 2022, par exemple, la France et l'Allemagne, à elles seules, ont versé en subventions nationales quasiment autant que tout le plan de relance européen, rien qu'à elles deux. Alors cette politique leur sert à capter les investissements au détriment de leurs prétendus alliés. Elle permet aussi aux industriels de faire monter les enchères, hein, comme Intel qui a demandé au gouvernement allemand d'augmenter de 6,8 à 10 milliards d'euros une subvention pour construire des usines de semi-conducteurs dans l'est de l'Allemagne. Il faut vraiment monter les enchères comme ça. Mais devant cette pluie de subventions nationales, la présidente de la Commission elle-même a évoqué le risque, je la cite, de fragmentation du marché unique. En fait, l'augmentation massive des subventions nationales, c'est le rétablissement d'une conséquence économique directe dans l'Union européenne. Et c'est donc une fissure dans le marché unique, une fissure qui pourrait s'élargir encore. En fait, c'est la base même de la construction européenne, la fameuse concurrence libre et non faussée qu'ils ont mis des décennies à organiser, qui est aujourd'hui menacée. Alors bien sûr, certains secteurs, comme la finance, perdraient à la fragmentation de l'espace économique européen. Le patron de la banque d'affaires Lazard déclarait récemment, je le cite, « Commençons au moins par ne pas nous livrer entre nous, Européens, à une surenchère de subventions ou de dumping pour attirer des investissements ». Mais c'est pourtant exactement ce que font les trusts quand ils mettent en concurrence les États pour obtenir le maximum de subventions. Ils contribuent à cette fragmentation, même si en même temps, le marché unique leur reste utile. Les bourgeoisies européennes sont encore et toujours confrontées au même problème. Chacune de leur côté, elles pèsent peu dans la compétition économique qui se déroule à l'échelle mondiale. Et ce fait, qui n'est pas nouveau, s'accentue encore dans la période actuelle où la guerre économique s'est aggravée. Mais d'un autre côté, elles ne peuvent pas dépasser un certain niveau de coopération, car elles restent fondamentalement en concurrence. Lequel de ces deux éléments prendra le pas dans la période à venir ? Il est probable que les dirigeants européens eux-mêmes n'en savent rien, ils marchent à l'aveugle. Mais ce qu'on peut constater, c'est que face à une crise, les rivalités s'aiguisent, en particulier entre la France et l'Allemagne. Le renforcement de courants nationalistes et populistes dans tous les pays européens pourrait accélérer ce mouvement centrifuge. Alors bien sûr, ces courants nationalistes sont tout à fait capables de faire demain l'inverse de ce qu'ils auront promis aux électeurs. Le RN en France et Fratelli d'Italia en Italie ont eu des postures anti-européennes farouches, mais plus ils se sont rapprochés du pouvoir, plus ils ont abandonné ce langage. Mais la course aux voix peut aussi pousser certains de ces partis à aller plus loin dans la déconstruction de l'Union européenne, comme cela s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit. L'agitation anti-Europe est en tout cas, partout sur le continent, un moyen d'occuper le terrain politique. En Allemagne, l'AfD appelle même à un référendum sur la sortie de l'Europe. Il y a beaucoup de bluff dans tout cela, mais pas seulement. Qu'ils s'affichent anti ou pro-Union européenne, tous les dirigeants des États européens raisonnent de la même façon, en fonction de leur économie nationale. Leurs divergences sont uniquement des divergences tactiques. Macron, Scholz et autres parlent déjà tous les jours de la guerre économique. Ils peuvent demain, après des décennies de louanges au couple franco-allemand, défendre exactement l'inverse. Cela ne dépendra pas de leur volonté, encore moins de leur déclaration actuelle, mais de l'évolution de la crise. Alors, les artisans de la construction européenne peuvent en être les déconstructeurs, justement parce que l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une alliance entre brigands qui espèrent avoir chacun la plus grosse part du butin. Cette crise de l'Union européenne est l'un des reflets de l'évolution actuelle du capitalisme qui est en train d'entraîner l'humanité vers encore plus de chaos et peut-être vers une nouvelle guerre mondiale. La seule force qui puisse contrer cette évolution, c'est la classe ouvrière, mais pour cela, il faut qu'elle se batte pour ses intérêts et qu'elle retrouve, en menant ses combats, la perspective internationaliste. L'internationalisme ouvrier est bien plus qu'une solidarité entre exploités par-delà les frontières. Il est inséparable de la perspective communiste qui est la seule qui puisse mettre fin à la barbarie dans laquelle la bourgeoisie plonge la société. Du point de vue des intérêts collectifs, le maintien de frontières nationales est une aberration. Aucune marchandise n'est produite à l'échelle d'un pays, et ce depuis des décennies. La suppression des frontières est une nécessité objective depuis très longtemps. Et c'est justement cette nécessité elle-même qui a poussé les bourgeoisies européennes à créer l'Union européenne, avec toutes les limites que l'on a vues, car la bourgeoisie ne peut pas se passer des frontières. La classe ouvrière, au contraire, y a non seulement intérêt, mais elle en a la capacité, et elle seule. Déjà, la classe ouvrière a toujours été internationale. C'est évident aujourd'hui, mais cela n'a rien de nouveau. Car la bourgeoisie, tout en se construisant des États-nations, a aussi toujours brassé les peuples. La misère, la prolétarisation ont toujours obligé les travailleurs à se déplacer. Ouvriers belges en France, allemands en Angleterre, dès la révolution industrielle, la classe ouvrière a été mélangée. Et en 1845, Marx écrivait déjà, je le cite, « La nationalité du travailleur n'est pas française, anglaise, allemande, elle est le travail, le libre esclavage, le trafic de soi-même. Son gouvernement n'est pas français, anglais, allemand, c'est le capital. L'air qu'il respire chez lui n'est pas l'air français, anglais, allemand, c'est l'air des usines. » Et le mouvement ouvrier communiste s'est formé sur une base internationale et internationaliste. Marx et Engels étaient eux-mêmes des militants internationaux qui ont grandi en Allemagne et vécu et milité en Belgique, en France, en Angleterre. Ils ont rédigé le manifeste du Parti communiste comme programme pour la Ligue des communistes, un groupe qui comprenait des militants de toute l'Europe. Ce programme est paru à la veille d'une vague révolutionnaire qui a ébranlé l'Europe sans aucun respect pour les sacro-saintes frontières et commencé par ce constat, un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme. Marx et Engels ne concevaient ni le communisme, ni a fortiori la lutte du prolétariat, autrement qu'à l'échelle internationale. Et au XIXe siècle, tandis que la bourgeoisie développait ses frontières et ses nations, le mouvement ouvrier, lui, cherchait à les dépasser en unifiant le prolétariat. Contre la mise en concurrence par le patronat, qui embauchaient des ouvriers belges pour briser les grèves françaises et inversement, et parce qu'ils avaient compris que le sort du prolétariat dépend de sa capacité à s'unir en tant que classe, indépendamment de la nationalité, les militants de cette époque ont créé une première organisation ouvrière internationale en 1864. L'un des membres de cette internationale, Léo Frankel, était un ouvrier hongrois, ayant étudié et travaillé en Allemagne, en Angleterre, puis en France. Eh bien, il a tout naturellement pris sa place comme l'un des dirigeants de la Commune de Paris en 1871. Dans cette révolution ouvrière, la nationalité ne comptait pas. Cette conscience de former une classe internationale aux intérêts communs par-delà les frontières et capable de gérer la société dans l'intérêt de tous a existé dans le prolétariat européen de façon encore plus large à la fin du XIXe siècle. La Deuxième Internationale, fondée en 1889, regroupait des militants de tous les pays européens et d'ailleurs dans le monde, qui se considéraient comme les membres d'une même classe, quelle que soit leur nationalité, nationalité qui d'ailleurs tenait dans une large partie de l'Europe au marchandage auquel étaient en train de se livrer les grandes puissances. Christian Rakowski, l'un des dirigeants de la Deuxième Internationale, appartenait à une famille bulgare, mais la région de son village a été attribuée à la Roumanie par le traité de Berlin en 1878. Et pendant longtemps, ce Roumain par son passeport parlait le bulgare, le russe et le français mieux que le roumain. Mais cela ne l'a pas empêché de défendre les idées socialistes tout autant en Roumanie qu'en Bulgarie, en Serbie, en Russie, en Suisse, en Ukraine, en Allemagne et en France. Et il fut après la guerre l'un des dirigeants de l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, une union sans référence géographique. Eh bien, c'est cette tradition qu'il faut retrouver. Au cours du XXe siècle, elle a été abandonnée par les partis ouvriers. La classe ouvrière, et en fait toute l'humanité, l'a payée très cher. Une première fois en 1914, lorsque les dirigeants des partis et syndicats socialistes ont presque tous renié leurs propres proclamations, se sont solidarisés de leur bourgeoisie et ont livré les travailleurs aux États, aux patrons, aux officiers de l'armée. La classe ouvrière a pourtant trouvé la force de contester la domination de la bourgeoisie et ses conséquences lorsqu'une vague révolutionnaire européenne a démarré en Russie en 1917, en pleine guerre. Cette vague révolutionnaire a submergé l'Allemagne, l'Europe centrale et de l'Est, ainsi que l'Italie, donnant raison à la petite fraction des dirigeants de la Deuxième Internationale qui n'avaient pas abandonné le drapeau internationaliste en 1914. Des militants de toute nationalité, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Lénine, Rosmer, Rakowski, Trotsky. Et dans le feu des événements, une Troisième Internationale, partie mondiale de la Révolution, a été fondée pour organiser ce combat qui se déroulait à l'échelle européenne et non à l'échelle russe ou allemande ou italienne. Alors les situations révolutionnaires en Allemagne, en Hongrie et ailleurs n'ont pas débouché sur la prise de pouvoir par le prolétariat. Et là aussi, les conséquences n'ont pas été nationales, mais européennes et même mondiales. Car c'est sur la base de l'écrasement des révolutions hors de Russie, de la pauvreté de l'économie de la Russie, de la démoralisation due à son isolement, qu'une clique bureaucratique autour de Staline a parasité et pris en main l'État ouvrier au point de le transformer en un appareil dictatorial contre le prolétariat lui-même. Les staliniens ont alors inventé la perspective du socialisme dans un seul pays, ce qui est une aberration. Et cette clique bureaucratique a aussi dénaturé l'international communiste. Partout dans le monde, les partis communistes stalinisés ont été mis au service des intérêts de la bureaucratie soviétique jusqu'à adopter un langage patriotique lorsque cela était utile à cette clique, comme l'a fait le Parti communiste français dans les années 1930. Cette trahison a paralysé le mouvement ouvrier lors de la montée vers la Deuxième Guerre mondiale, et encore une fois, toute l'humanité l'a payé très cher. Par la suite, les grands partis ouvriers ont continué à désorienter le prolétariat et à diffuser dans le monde du travail des idées nationalistes qui sont à rebours des intérêts des travailleurs. Les sociaux-démocrates, depuis longtemps passés avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie, ont masqué les vraies raisons de la construction européenne derrière des contes pour enfants sur la paix et l'avenir radieux dans une Europe unifiée. Les staliniens, eux, dénonçaient non pas la dictature capitaliste, mais la dictature des trusts américains ou la pression allemande, ajoutant leur pierre patriotique au discours de la classe dominante. Dans la suite de l'histoire de la construction européenne, le PC français n'a jamais manqué une occasion de dénoncer la main de l'étranger. Quand ce n'était pas les États-Unis ou les tomates espagnoles, c'était Maastricht, Bruxelles, Francfort, toute variante d'un discours nationaliste qui consiste à faire croire que les travailleurs français ont des intérêts communs avec les patrons français. Jusqu'à aujourd'hui, où Fabien Roussel ne manque pas une occasion d'afficher son patriotisme. Se ranger derrière un camp national contre un autre, c'est aider la bourgeoisie à mener sa politique barbare. Il n'y aura ni protection, ni paix, ni souveraineté pour les travailleurs tant que la bourgeoisie sera aux commandes. Tout le XXe siècle a montré, la bourgeoisie ne peut diriger la société qu'en la jetant de guerre en crise et de crise en guerre. Et elle le fait à l'échelle internationale. Crise économique, crise climatique, aucun des problèmes qui se posent à l'humanité ne peut trouver de solution à l'échelle nationale. Mais à l'échelle de la petite Europe non plus. La bourgeoisie ne peut pas se passer des frontières, et elle les entretient. Mais c'est elle qui a besoin des marchés nationaux, des armées, des États et des alliances internationales comme l'Union européenne. Pas les travailleurs. Les travailleurs ont, eux, ont les moyens de mettre fin à cet anachronisme que représentent les frontières, de gérer l'économie et la société d'une façon rationnelle, planifiée. D'un bout à l'autre du monde, ils subissent les conséquences de la domination des mêmes trusts. Ils forment déjà un vaste réseau dans lequel ils collaborent, de fait, sur toute la planète. C'est à cette échelle qu'il faut raisonner, et non à l'échelle de la nationalité qui nous a été attribuée par le découpage impérialiste du monde. Les bourgeoisies de tous les pays essaient d'embarquer les travailleurs derrière leur politique. Aujourd'hui, c'est la compétition économique, la course à la productivité. Demain, ce sera directement la guerre, comme l'a encore formulé Macron lundi dernier. Il faut refuser cet embrigadement, qu'il prenne la forme de la défense de l'Union européenne ou de la défense des nations européennes, chacune de leur côté. Nous n'avons pas à choisir entre patrie bourgeoise et Europe bourgeoise. Il faut refuser à la fois le patriotisme et le mensonge selon lequel les alliances bourgeoises pourraient garantir la paix au peuple européen. La seule Europe unie et en paix possible, c'est une Europe des travailleurs au pouvoir, des États-Unis socialistes d'Europe, qui respecteraient et donneraient leur place et les mêmes droits à toutes les nationalités et à tout un chacun, où qu'il habite ou travaille, une fédération des peuples à l'échelle européenne et même mondiale, débarrassée de la loi du profit et de la dictature de la bourgeoisie. Préparer cette perspective, cela commence par dénoncer toutes les divisions entre travailleurs, ceux de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, travailleurs immigrés venus d'autres continents, travailleurs français et allemands. Cela passe par la dénonciation des fauteurs de guerre économique et de guerre tout court que sont les dirigeants impérialistes européens, à commencer par les plus puissants d'entre eux, la France et l'Allemagne. Et cela passe par militer pour que la classe ouvrière retrouve la conscience qu'elle représente une force collective immense, la seule force sociale à même d'ouvrir une perspective à l'humanité si elle se bat pour ses intérêts. Parce qu'elle n'a rien à gagner au maintien des frontières nationales, parce qu'elle n'a pas de capital matériel ou financier à défendre, son intérêt fondamental est d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie et de réorganiser la société sur des bases collectives. Et c'est cela qui peut permettre à tous les peuples de vivre dans la paix et de bénéficier de tout ce dont l'humanité est capable. Le renversement de la classe capitaliste par la révolution, et c'est cela qui entraînera la destruction de toutes ces prisons que sont les frontières, les États bourgeois nationaux, les institutions bourgeoises, européennes comme internationales.